Là, on peut jeter à deux mots le professeur Lefrobert, qui est notre invité ce matin. Parce que Lefrobert est une autorité en droit pénal depuis de nombreuses années. Et
vous en faites
en sociologie du droit pénal, en criminologie. Il est le fondateur et l'âme dirigeante depuis très longtemps d'un centre de recherche important qui s'appelle le CELDIP, où il a mené de nombreuses recherches et il a aussi dirigé beaucoup de chercheurs, il a formé beaucoup de chercheurs que nous connaissons. Et aussi, il a créé ce qui s'appelle le groupe européen de recherche sur les normativités. Le groupe européen de recherche sur les normativités, qu'on appelle le GERN, qui est un lieu de rencontre physique et virtuelle de chercheurs européens, de peu près tous les pays européens, je pense, portant sur les normativités, sur tous les aspects des normativités. Et le centre de chambre publique est relié à ce GERN, nous sommes une exception, parce qu'en dehors de l'Europe, il n'y a pas beaucoup de centres que le GERN a accepté d'associer. Il y a ici, je pense, le CICC, le centre de...
Quelques centres au Canada et au Québec, et quelques-uns au Brésil.
Mais nous avons été parmi les premiers à être
associés
qui n'étaient pas de l'Europe.
Si tout à fait.
C'était une entorse à l'Europe. Mais surtout aussi, je veux dire que Lefrobert est un ami du Québec depuis de longues, très longues dates. Nous nous connaissons, je pense, depuis au moins une trentaine d'années maintenant. Lefrobert est venu très souvent au Québec. Et il est associé beaucoup au développement de notre école de criminologie, parce qu'il a travaillé beaucoup à l'école, il a enseigné à l'école, il a établi avec l'école de criminologie de nombreuses amitiés, et aussi avec l'école de criminologie de l'Université d'Ottawa, où il enseignait d'ailleurs une dernière, il y a deux semaines, tout comme il enseigne cette semaine ici, à l'école de criminologie. Et il a accepté de donner cette conférence ce matin, bien que cet après-midi, dans 3 heures de cours, en criminologie. Ce qui est je trouve, pour ma part, un exploit du professeur. Il a enseigné toute la semaine. Je me sens que c'est très généreux de sa part d'avoir accepté de faire cette conférence sur les politiques de prévention de sécurité en Europe. Merci
Philippe
d'être avec nous.
Merci Guy. Alors, le sujet que Guy Rocher m'a demandé de traiter est l'évolution des politiques de prévention et de sécurité en Europe. Ce n'est pas très facile à aborder dans la mesure où la prévention est un mot, un contenu variable qui peut contenir n'importe quel moyen dont on espère qu'il aura pour effet de diminuer la délinquance. Et on distingue généralement les politiques de prévention qui poursuivent ce but par le moyen de programmes sociaux, scolaires ou culturels, ce qu'on appelle généralement la prévention générale, et ceux qui s'attachent directement un but préventif, la prévention spéciale, laquelle se subdivise encore en deux directions, celle qui comprend des mesures tournées principalement vers les délinquants éventuels ou potentiels, et celle qui comprend des mesures tournées essentiellement vers les victimes putatives. Alors, au cours de la décennie 1980, deux conceptions de la prévention se sont distinguées nettement au sein des pays de la communauté européenne, l'une que l'on a appelée situationnelle et l'autre sociale. Alors la première s'incarne au mieux en Angleterre et au Pays de Galles. Je dis en Angleterre et non pas au Royaume-Uni parce que le cas de l'Écosse est assez différent et ne fonctionne pas sur le même principe. et la France représentait au mieux le second modèle. Alors pourquoi s'attacher principalement à ces deux pays? Eh bien parce que c'est ceux qui permettent de mener au mieux l'analyse dans la mesure où la notion même de prévention était alors presque absente en République fédérale d'Allemagne et plus largement dans toute la zone germanophone, et elle y suscitait même certaines réserves, et que si l'on pouvait repérer quelques intéressantes initiatives de pouvoirs locaux en Italie ou en Espagne, en échange, l'état national de ces deux pays ne développait guère de politique cohérente de prévention et de sécurité, et ne le développe toujours pas d'ailleurs actuellement. Au Benelux, les Pays-Bas suivaient fidèlement l'inspiration britannique, et on peut considérer que c'est plus ou moins une annexe du modèle anglais. Quant à la Belgique, la partie francophone du pays était proche des réalisations françaises et la partie néerlandophone plutôt sensible à l'exemple des Pays-Bas. De la sorte, c'est surtout en Angleterre égale d'un côté, en France de l'autre, que l'on peut discerner le développement de modèles de prévention qui étaient à cette époque assez différents l'un de l'autre. Alors je vais vous présenter successivement pour chacun d'eux l'origine, l'inspiration théorique et politique, les pratiques et les évolutions. Ceci constitue le point de départ et ma première partie. Ensuite nous verrons dans une deuxième partie comment ces modèles ont évolué et d'une certaine façon sont devenus indistinguables l'un de l'autre. Et puis, dans une partie conclusive, je chercherai à définir rapidement quels sont les problèmes qui peuvent se poser actuellement dans la zone européenne. Alors, commençons par la prévention situationnelle à l'anglaise. Or, je m'inspire essentiellement de travaux de collègues comme Joanna Chaplin, Adam Crawford ou Tim Hope et quelques autres auteurs. Jusqu'au début des années 1980 en Angleterre, le terme prévention ne signifiait pas grand-chose d'autre que l'effet attendu de la surveillance policière et, à la limite, l'effet dissuasif que l'on espérait de l'action de la justice et des peines. Et pourtant, en 1984, le gouvernement conservateur, qui était en place depuis 1979, le gouvernement de Lady Thatcher, lance un programme appelé Five Cities, qui sera relayé et amplifié en 1987 dans un programme Safer Cities. Alors, en fait, le gouvernement central cherchait à contourner des pouvoirs locaux qui étaient souvent restés aux mains du Parti travailliste, du Parti Labour, et qui étaient quelquefois devenus des laboratoires du left-realicisme, ce mouvement apparu à la fin des années 70 et qui est représenté au mieux par les travaux de George Young à la Middlesex University. Mais il tentait aussi, ce gouvernement central, une chose assez originale en Europe, qui était, à l'époque surtout, qui était de promouvoir l'implication des entreprises du secteur privé dans la prévention et la sécurité. Et la création concomitante de Crime Concern répondait à cet objectif. Et alors, ces programmes de prévention du gouvernement conservateur s'appuyaient sur deux principes essentiels. Responsabiliser les populations pour leur faire prendre en main leur propre sécurité et, d'autre part, réduire les occasions de délinquance en aménageant l'environnement. En fait, on puisait largement dans les formules expérimentées aux États-Unis au cours de la décennie précédente, de la décennie 1970. Vous vous souvenez que la décennie 1960 avait vu aux États-Unis le démantèlement des grands programmes de prévention sursaturants qui s'inspiraient du Chicago Area Project et qui avaient dominé la politique de prévention américaine des années 30 aux années 60. sous l'influence de l'œuvre et de la pensée de Clifford Shaw. Et dans les années 70, la mutation consiste à prendre pour cible non plus le délinquant potentiel, mais un territoire urbain particulier dans lequel on s'attachera à aider les victimes putatives à mieux résister à l'intrusion éventuelle, ce qu'on appelle en traduction littérale de l'anglais le durcissement de la cible, par trois méthodes principales. Le marquage indélébile des objets exposés au vol, la protection des habitants contre l'intrusion et la surveillance du voisinage par les habitants. Ce que Rosenbaum et son école, dans leurs travaux d'évaluation des politiques de prévention, appelaient les trois grandes méthodes, les Big Three. Alors cette influence américaine a circulé d'autant mieux au début des années 80 en Angleterre qu'elle a trouvé un socle intellectuel dont elle ne disposait pas jusqu'alors dans une doctrine de réduction des risques de victimation qui a été systématisée par le service de recherche du ministère anglais de l'Intérieur, du Home Office, surtout sous la direction de Clark, avant que celui-ci finisse par partir aux États-Unis pour y poursuivre une carrière universitaire. Alors, rétrospectivement, en pratique, ces programmes anglais de prévention des années 80 se sont surtout traduits par le très fort développement des programmes de surveillance du voisinage et également par des programmes de lutte contre le cambriolage à répétition. Les évaluations, il n'existe pas beaucoup de pays en Europe qui aient développé l'évaluation des politiques de prévention plus que l'Angleterre, notamment sous l'influence des travaux de Paul Ekblom. Les évaluations ont reproché au premier programme, à ceux de surveillance de voisinage, de prospérer surtout dans des zones urbaines où les relations des habitants avec la police étaient bonnes, mais où les problèmes de sécurité étaient minimes. Et où donc on aurait pu se dispenser, à vrai dire, de tout programme particulier de prévention. En échange, ces programmes ont eu globalement du mal à trouver, à s'implanter dans des zones plus conflictuelles. Les évaluateurs ont eu du mal à leur trouver un impact très notable tant sur la délinquance que sur la peur du crime. En revanche, les programmes sur le cambriolage à répétition étaient considérés comme plus efficaces, bien que suscitant souvent des traditionnels effets de déplacement. On a surtout reproché au programme des années 80 un manque de vision stratégique, une préférence marquée pour le court terme et des évaluations qui étaient surtout centrées sur les aspects financiers de l'opération et qui tenaient donc beaucoup plus de l'audit que de l'évaluation. Toutefois, on a pu relever qu'une association plus anciennement implantée que Crime Concern, le NECO, avait pu intervenir parfois efficacement comme un antidote au défaut de la politique gouvernementale d'alors, en favorisant des formules assez efficaces de gestion locale de la prévention. Alors en 1991, le gouvernement conservateur demande un rapport à la Conférence permanente sur la prévention. Et ce rapport, qu'on appelle Morgan, du nom du président de cette conférence, propose d'élargir le partenariat local, de s'ouvrir à la prévention sociale, deux modèles français dont je vais parler bientôt, et surtout de faire place aux élus locaux dans le pilotage de ces programmes. Ça ne plaît pas du tout au gouvernement central, qui a la réaction bizarre de dissoudre cette conférence et de la remplacer par un autre organisme, une commission nationale, dont la composition laissait à penser qu'elle serait plus docile. Ensuite, sur le gouvernement Major, la politique de prévention et de sécurité évolue vers un populisme punitif et les programmes de prévention font une place de plus en plus grande à la surveillance du voisinage et aussi au développement des adjoints bénévoles de police qui commencent à ce moment-là. C'est à cette période aussi que débute la manie de la vidéosurveillance. Qui sera une caractéristique de la société anglaise encore jusqu'à nos jours. Venons maintenant à la prévention sociale à la française. Alors en France, l'épisode dit des blousons noirs, des affaires de bandes de jeunes, à la fin des années 50 et au début des années 60, avait donné un coup de fouet au développement d'expériences qui commençaient déjà depuis une dizaine d'années, de travailleurs de rue, travaillant en club ou en équipe, et qui poursuivaient un travail social avec les bandes de jeunes, dans le cadre d'associations privées, mais financées par le ministère des Affaires sociales. Et cette formule était très solide, avait eu beaucoup de succès, mais au milieu des années 70, elle va être prise à contre-pied par la mutation du marché du travail qui, à ce moment-là, se segmente et cesse d'offrir aux non-qualifiés ou aux faiblement qualifiés le même statut stable qu'il offre à la main-d'œuvre fortement qualifiée. Et cette segmentation bouleverse tout le travail social parce que la recette antérieurement expérimentée avec succès consistant à ramener les jeunes déviants vers le monde du travail devient beaucoup plus difficile à réaliser pour ceux qui manquent de qualification, ce qui est généralement le cas de la clientèle de ce travail social. Donc la formule traditionnelle de prévention en France entre en crise. Alors, une première tentative de rénovation de la prévention voit le jour sous la présidence de M. Giscard d'Estaing dans la deuxième partie des années 70, quand il confie à un homme politique de l'époque, qui s'appelait Perfit, le soin de présider une commission présidentielle sur la violence et la délinquance, qui conclut, entre autres choses, à la rénovation de la formule de prévention. Cette recommandation sera suivie d'effets, mais sans beaucoup de succès. D'abord parce que la formule est mal calibrée, que l'on crée des comités, mais un palier de gouvernement intermédiaire, pas assez localisé, qu'on confine ces organismes dans un rôle pas très efficace de conseiller des décideurs, et surtout que le gouvernement de l'époque se désintéresse très vite de ce volet des politiques. Alors les choses vont changer à partir du moment où c'est un gouvernement de gauche qui vient aux affaires en 1981, et elles changent non pas parce que c'est un gouvernement de gauche, mais parce qu'il est pris un peu à froid, quelques mois après sa venue au pouvoir, par une vague d'émeutes urbaines. Émeute est un terme un peu emphatique, mettons, de troubles urbains, qui éclatent en plein été 1981 dans la banlieue de Lyon. Et à ce moment-là, on fait appel à une commission de maires de grandes villes pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait adopter comme politique. Et cette commission accouche d'un programme ambitieux qui s'appelle Prévention, Répression et Solidarité, qui est un véritable projet de politique sécuritaire alternative. C'était beaucoup plus que les grandes administrations de l'État pouvaient supporter comme remise en cause de leurs prérogatives traditionnelles. Mais il y a cependant un volet de ce rapport que l'on peut sans difficulté mettre en œuvre parce qu'il ne gêne personne, il ne va mordre sur aucun précaré déjà constitué, c'est la prévention. Alors, les préférences de cette commission, qui était présidée par un maire d'une municipalité de la banlieue parisienne qui s'appelait M. Bonnemaison, ces préférences allaient à une prévention générale dite sociale, qui ciblait non pas des populations, mais des zones urbaines qui cumulent des difficultés de tous ordres, dans l'idée de multiplier les interventions dans ces zones, avec l'espoir que ces quartiers deviendraient plus calmes si de sorte leur population s'améliorait. Or, la force du dispositif tenait surtout dans la manière dont il était envisagé. À la base des comités locaux qui réunissaient les représentants locaux de l'État central, les représentants des municipalités et ceux du secteur associatif, avec l'idée que le poids politique des maires leur permettrait d'amener ces différents participants à travailler de concert. Et au niveau central, une commission composée pour moitié de maires de grandes villes et pour moitié des représentants des grandes administrations d'État, avec l'idée que cette dualité leur permettrait de se faire entendre des différents paliers de gouvernement. Or, cette formule a eu un succès immédiat. Et entre 1984 et 1986, plusieurs centaines de comités locaux se créent ainsi. En 1986, il y a un changement de gouvernement, c'est un gouvernement de droite qui revient aux affaires, ce qui ne détruit pas cette expérience parce qu'il participe autant de maires de droite que de maires de gauche, qui sanctuarisent le programme. Avec cette réserve cependant que le changement des dirigeants nationaux paralyse un peu l'institution. Il est possible aussi que les acteurs un peu novices qui s'étaient lancés avec beaucoup d'enthousiasme dans ces politiques de prévention se soient assez vite usés, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas toujours de la longue expérience qu'avaient leurs prédécesseurs des formules antérieures. En 1988, nouvelle alternance, et le gouvernement de gauche qui revient aux affaires fusionne ce dispositif avec un autre dispositif voisin qui existait, qui consistait à rénover et à améliorer le bâti et les équipements de proximité des quartiers les plus en difficulté dans les grandes zones urbaines. Et l'on crée, à la suite de cette fusion, ce que l'on appellera en France une politique de la ville. Alors cette politique de la ville, qui est en fait une politique de quartier, reprend l'idée centrale imaginée quelques années antérieurement, qui consiste à avoir des programmes ciblant des territoires et non pas des populations, et en mettant l'accent essentiellement sur les politiques sociales, donc sur une prévention plutôt générale. Avec des difficultés, d'ailleurs, parce qu'il y a une nouvelle vague de troubles urbains importants en 1991 qui crée un certain affolement dans le gouvernement de l'époque, qui amène à multiplier les dispositifs, à créer un nouveau ministère, à doter d'une délégation interministérielle. Bref, tout ça devient un peu complexe. Et pendant toute la décennie 1990, une série de dispositifs sont venus nourrir la politique de la ville, des zones franches urbaines, des processus de retour à l'emploi des jeunes dépourvus de qualifications, des zones d'éducation prioritaire, des zones de redynamisation urbaine, des grands projets de ville, etc. Chaque nouveau gouvernement ajoute une tranche à cette espèce de millefeuille, sans supprimer généralement les dispositifs anciens, parce que chacun satisfait au moins quelques maires importants, et dont on additionne. Et ça devient un ensemble assez compliqué. Et ce qui fait aussi cette complexité, c'est que les grandes administrations d'État veulent bien participer à ces politiques de prévention à condition de garder chacune le contrôle de leur propre secteur. Alors au fil du temps, les politiques de la ville élargissent de plus en plus leur zone d'intervention. En 2000, il y a 250 contrats de ville qui touche jusqu'à 6 millions de personnes, c'est-à-dire 8% de la population métropolitaine. Alors au total, ces mesures témoignent d'un refus de rompre la solidarité nationale, d'abandonner à leur sort les zones urbaines en difficulté, mais pour autant, ces dispositifs peinent à sortir ces zones de leur statut d'exception chronique. Je dis souvent que les politiques de la ville jettent une bouée à l'homme qui est tombé à la mer, mais qu'elles n'ont pas la force de le remonter à bord. Pourquoi est-ce que on n'a pas mobilisé des moyens suffisants? Est-ce que ces procédures sont restées trop dans un schéma administratif qui fait le bien des gens pour eux au lieu de les faire participer? Un modèle qui va du haut vers le bas. Est-ce qu'on a trop cherché des remèdes à un niveau local? Les problèmes se trouvent à un niveau local, mais les remèdes n'y sont pas toujours. Il y en a qui ne se trouvent qu'à un niveau d'agglomération, d'autres à un niveau régional et d'autres à un niveau national, voire européen. Est-ce que la contradiction était trop forte avec les lignes de force des politiques économiques générales? C'est difficile à dire. À vrai dire, ce que l'on a réussi le mieux, c'est la réhabilitation du bâti et la réhabilitation des équipements de loisirs et de commerciaux de proximité. En échange, ce qui était plus spécifiquement programme de prévention ne s'est jamais très très bien développé d'une façon très décisive. Il y a eu une grande évaluation qui a été réalisée par l'Institut National de la Statistique en comparant les données du recensement général de population de 1990 et celui du recensement de 1999 et qui aboutissait à un bilan mitigé. 177 de ces zones avaient connu une amélioration de leur situation relative, mais celle de 540 autres s'était plutôt aggravée en valeur relative. Alors, la population de ces zones qu'on appelle urbaines sensibles dans le jargon administratif français s'était un peu réduite, elle était passée de presque 5 millions à 4 millions et demi, mais enfin, ce qui représentait à peu près le 13e de la population métropolitaine, mais enfin tout ça n'était pas absolument décisif, et il n'était pas sorti de cet entassement de dispositifs une doctrine cohérente et clairement lisible de prévention. En fait, on se trouvait devant un problème classique en matière de politique de prévention, mettre l'accent sur des politiques sociales amène toujours un risque de généralisation abusive, de perte de consistance, voire de déciblage de l'action, dont on ne sait plus exactement à quelle population ça s'adresse. Et de même que les politiques très ciblées s'épuisent généralement faute d'un adossement suffisant à des politiques sociales qui peuvent leur servir de point d'enrochement, de point d'appui. De même, des politiques trop générales perdent vite leur spécificité car elles ne sont pas accompagnées de programmes spécifiques représentant un ensemble cohérent. Et trouver et maintenir un bon dosage entre prévention générale et prévention spécialisée est toujours en la matière un exercice instable et difficile. Bref, on n'était pas arrivé vraiment, malgré les efforts consentis, à développer un modèle très cohérent et très stable. Voilà pour ma première partie qui consistait à tracer à grandes lignes le point de départ. Les deux modèles, alors présentés comme très opposés. types partager l'influence dans la zone de l'Union européenne. Alors voyons dans une deuxième partie leur convergence. Or chacun des deux modèles a perdu de sa pureté initiale. Ils se sont en quelque sorte, ils ont fait un bout de chemin l'un vers l'autre, de telle sorte que maintenant on ne parle plus de pluralité de modèles de politique de prévention et de sécurité en Europe, et même certains vont jusqu'à parler d'une sorte de modèle commun européen. Mais ce mixage ne s'est pas fait à partie égale. C'est en bonne partie le modèle situationnel qui est devenu dominant. Mais non pas par le... Non pas exactement par le triomphe de l'exemple anglais, mais à cause de l'influence du développement du marché privé de la sécurité. Cependant, chaque pays conserve d'importantes spécificités qui sont dues en grande partie aux particularités de son organisation politique et administrative. Alors voyons d'abord l'évolution des deux modèles anglais et français, puis la primauté de la prévention situationnelle, et enfin dans quelle mesure on évaluera dans quelle mesure on peut parler d'un modèle commun européen. Alors l'évolution d'abord des deux modèles de base, anglais et français. En Angleterre, le retour au pouvoir des travaillistes entraîne une réorientation dans les dernières années du XXe siècle des politiques de prévention et de sécurité qui se traduisent par la promulgation en 1998 du Crime and Disorder Act. Or, le grand changement est la réintroduction des autorités locales, des gouvernements locaux, qui étaient déjà conseillés, vous en souvenez peut-être, en 1991 par le rapport Morgan, et qui deviennent désormais, conjointement avec les services régionaux de police, vous savez probablement qu'en Angleterre, l'organisation de la police se fait selon un modèle régional, qui deviennent co-responsables des programmes locaux de prévention et de sécurité. Elles sont tenues aussi, ces municipalités, de prendre en compte les effets de leurs initiatives sur la délinquance et le désordre. Et enfin, même si des sources indirectes de financement additionnelles sont fournies par le gouvernement central, les partenaires locaux sont en principe tenus de financer eux-mêmes, par redéploiement de leurs moyens budgétaires, leurs programmes de prévention. Et ils sont obligés également d'adopter des procédures de diagnostic préalable et de consultation des communautés locales, même si ces démarches apparaissent souvent un petit peu superficielles. Mais l'innovation la plus étonnante, la plus marquante, c'est le retour à la notion, d'ailleurs non définie, de désordre. On y trouve une influence de la théorie de la vitre cassée qu'avait développée Wilson Eckeling dans un petit article qui a eu un étonnant succès, qui a été publié en 1982, qui revient grosso modo à imputer au désordre l'affaiblissement ou l'effondrement des solidarités de voisinage, qui sont donc implicitement tenues comme le meilleur outil de prévention et de sécurité. Et ceci se traduit par la création de l'ordonnance sur la conduite antisociale qui permet d'imposer des mesures aux gens qui sont supposés créer des désordres. Avec cette conséquence bizarre que la violation de ces ordonnances peut entraîner des sanctions pénales sans qu'il y ait eu de commission d'une infraction à proprement parler. Ce qui sera vivement critiqué par des auteurs comme Adam Crawford. Alors, au-delà de cette philosophie de base, le contenu concret des programmes de prévention et de sécurité adoptés au niveau local est laissé au libre choix des partenaires locaux. L'État central gouverne à distance, selon un schéma qui est cher au gouvernement Blair, sans s'immiscer en principe dans les programmes, mais en imposant aux différents partenaires une culture de l'audit extrêmement tatillonne et qui est notamment influencée par les différentes publications de l'Audit Commission, dont le rôle n'est pas limité au domaine de la sécurité, mais qui essaie d'étendre à tous les secteurs de la vie publique une culture de l'audit. Seulement, cette exigence a un effet pervers, dans la mesure où chacun des partenaires locaux, services de police, municipalités, enseignants, charités, secteurs associatifs, etc., sont tenus à des obligations d'audit envers leurs tutelles respectives, ceci ne les pousse pas beaucoup à coopérer entre elles sans arrière-pensée, parce que chacune a ses propres critères et ses propres performances à remplir, et c'est ce moteur qui devient essentiel dans l'esprit de chacun, et non pas le partenariat local qu'on leur demande pourtant de mettre en œuvre en même temps. Et il y a ainsi une sorte de contradiction interne qui est assez critiquée. Alors en France, les alternances politiques ont été beaucoup plus nombreuses, puisqu'il y en a eu en 1986, en 1988, en 1993, en 1997 et en 2001. Autrement dit, chaque fois qu'on a demandé à la nation d'élire des représentants, elle a renvoyé ceux qui sortaient, depuis 1981, d'une façon continue. Or, l'évolution des politiques de prévention de sécurité est plus influencée en France par une sorte d'alignement au moins partiel de la gauche sur les positions de la droite et de la droite sur les positions de l'extrême droite. Il y a une sorte de course-poursuite après populiste qui crée une sorte de déplacement vers la droite et la droite extrême des doctrines en matière de sécurité et de prévention. Pourtant, le gouvernement de gauche de la fin des années 90 avait tenté deux innovations majeures. La police de proximité et les emplois jeunes, qui d'ailleurs n'ont survécu ni l'un ni l'autre à l'alternance politique de 2001. Alors, la police de proximité, sous cette expression un peu bizarre, il y avait le souhait, généralement recherché dans à peu près tous les pays, de voir les services de police retrouver la fonction initiale qui avait été celle que Sir Robert Peel avait assignée à la New Police quand il l'avait créée en 1829, qui était le patrouillage de l'espace public. Une mission assez simple, mais dont la professionnalisation croissante a écarté les polices du monde entier au profit d'une fonction a posteriori de chasseurs de délinquants. Et cette mutation est une mutation considérable parce qu'elle laisse complètement vacant un secteur qui est celui de la présence dans l'espace public, qui est quand même le lieu où se produisent la majorité des vols et des agressions. Et en France, le problème était aggravé par le fait que les organisations policières suivent un modèle centralisé, qui les rend un petit peu étrangères à chaque société locale particulière, notamment par le système de gestion des personnels, qui lui aussi est un système centralisé. Donc on a essayé d'implanter dans ce modèle de police centralisée qui n'a pas été remis en question, un système de police inspiré du community policing et en même temps du problem solving policing tel qu'on le voyait se développer notamment à Chicago, sans d'ailleurs se demander si ce modèle de police locale était adaptable à un système policier centralisé. Mais par ailleurs, la réforme s'est faite d'une façon assez précipitée, assez hachée, sans beaucoup de négociations avec le personnel, sans beaucoup aussi de fournitures de façon de faire, de mode d'emploi, ni de création de stimulants matériels capables de motiver les gens à changer leur façon de faire. De telle sorte que cette réforme a suscité beaucoup de réserves, beaucoup d'opposition du personnel de base, et beaucoup plus au cœur des organisations professionnelles dont toute l'efficacité reposait sur le maintien d'un système centralisé, puisque leur niveau de négociation est avec le gouvernement central, et plus au cœur de la hiérarchie policière qui craignait à juste titre que le passage d'une police d'ordre public à une police communautaire entraîne un affaiblissement de l'organisation hiérarchique et donc une perte d'autorité de la hiérarchie, ce qui est d'ailleurs vraisemblable, qui est d'ailleurs incontestable. Quoi qu'il en soit, quand le gouvernement de droite est revenu aux affaires en 2002, la première chose qu'il a faite est de mettre au placard cette expérience de police communautaire et de revenir à un modèle de police d'ordre assez durci d'ailleurs, qui s'est traduit par des affrontements et une sorte de harcèlement à répétition entre forces de police et groupes de jeunes dans les zones urbaines de relégation, dont le résultat direct a été la vague d'émeutes urbaines qu'on a connue en novembre 2005. Alors l'autre expérience du gouvernement de la fin des années 90 avait été le recrutement de médiateurs sociaux. En fait, il s'agissait à toute fin pratique de recruter des jeunes sans emploi habitant dans les zones en difficulté et de leur confier le travail de présence dans les lieux publics et de médiation avec les groupes déviants que personne n'assurait plus. Alors cette formule a eu beaucoup de succès, d'autant plus qu'elle a été partiellement financée par un programme d'emploi jeune du gouvernement central, et se sont rués dessus les municipalités, les organismes logeurs, les sociétés de transport, la police publique, l'école, tout le monde a voulu développer ses médiateurs sociaux. Mais la formule n'était pas très pérennisée parce qu'il s'agissait toujours d'emplois temporaires, on ne savait pas exactement quel était le programme de sortie prévu pour cette masse d'agents qu'on avait recrutés. Et d'autre part, c'est un travail que vous ne pouvez pas faire pendant des dizaines d'années. Ce que vous pouvez peut-être faire à 20 ans, vous avez plus de mal à le faire à 40 ans quand les modes et les styles des groupes de jeunes ont changé et que vous ne les comprenez plus bien. Et donc il fallait, pour que la formule puisse durer, prévoir ensuite une manière de recaser ces agents et de les remplacer par d'autres. Bref, quoi qu'il en soit, en 2002, le nouvel gouvernement a abandonné ce type de financement, ce qui a supprimé assez brutalement un grand nombre d'emplois de médiateurs sociaux, et comme en même temps il a coupé les subventions des associations dans les zones difficiles, ces deux causes se sont ajoutées à celles dont je parlais à propos de la police pour être à la base, à la source immédiate des émeutes urbaines de novembre 2005. Ce qui fait que finalement, on se trouvait, tant en Angleterre qu'en France, entraîné assez loin de la clarté des modèles originels qui s'étaient construits dans les années 80. Tous ces changements, toutes ces alternances avaient rendu les lignes de force des programmes de prévention et de sécurité assez indiscernables dans un cœur comme dans l'autre. Mais ce que je voudrais noter, c'est le deuxième point de cette seconde partie, c'est la façon dont l'irruption du marché privé de la sécurité a fait pencher la balance en faveur des programmes de prévention situationnelle. À vrai dire, personne n'a encouragé officiellement la montée du marché privé de la sécurité, sauf le gouvernement britannique. À partir des années 80, les autres en Europe ont plutôt laissé faire, en s'occupant au mieux de réglementer la profession pour éviter qu'il y ait le développement de sociétés trop bizarres ou trop interlopes. Mais par exemple en France, il faudra attendre 1995 pour qu'une loi impose explicitement aux entreprises à risque et aux organisateurs de grandes manifestations sportives ou de loisirs de mettre en place des dispositifs de sécurité et d'organiser une concertation préalable avec les autorités publiques. Mais cependant, la croissance du marché privé de la sécurité a été impressionnante, mais il ne faut pas se laisser prendre par cette croissance globale, et il faut arriver à bien percevoir que les performances de ce marché privé de la sécurité ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Grosso modo, il a très bien réussi à enfermer dans des bulles de sécurité, pour reprendre l'expression de Paul Weiss et de Tony Bottoms, enfermer dans des bulles de sécurité des activités à risque qui étaient précisément localisées, genre galeries commerciales, entreprises, grands équipements collectifs ou des choses de ce genre-là. Il a eu un peu plus de mal à sécuriser les réseaux de transport, parce que les réseaux de transport présentent le grand inconvénient de ne pas être enfermés à un endroit précis, de se déplacer, et la protection est donc plus difficile à assurer et plus coûteuse. Ce qui a fait le succès, en tout cas, de ces bulles de sécurité, c'est qu'on pouvait, s'agissant d'endroits juridiquement privés, on pouvait facilement y fournir le modèle efficace qui est une combinaison de prestations en technologie, par exemple des caméras de surveillance, et de prestations de main-d'œuvre. Pour les particuliers, pour ceux qui en avaient les moyens, le marché a réussi à augmenter l'efficacité des dispositifs anti-intrusion. Ça ira mieux protéger les domiciles. Mais là, on fournit seulement de la technologie, on ne fournit que très peu des prestations de main-d'œuvre. Et jusqu'à un certain point, à améliorer l'efficacité des dispositifs anti-enlèvement des véhicules. Mais évidemment, ceci est très dépendant des facultés contributives des particuliers. Certains peuvent s'acheter ces dispositifs de protection, d'autres moins, ou même pas du tout. Et puis le grand problème est celui de l'espace public. La surveillance de l'espace public, sur ce point, le marché a réussi une assez belle opération en vendant l'idée que la formule idéale était la surveillance à distance. Mais c'est en grande part, ça repose en grande partie sur une illusion que vous allez comprendre immédiatement si je prends l'exemple des attentats dans le métro il y a quelques années à Londres. Tout le monde a dit et répété en Europe, à la suite du gouvernement Blair, vous voyez comme les caméras c'est efficace, la preuve c'est que l'on a identifié en quelques jours les auteurs d'attentats. Si ça ne veut pas grand chose, ils étaient morts en général, mais enfin bon. On les a identifiés. Mais, ce qu'on oubliait de dire, c'est qu'on n'avait pas empêché les attentats pour autant. C'est-à-dire, on avait facilité l'enquête a posteriori, mais on vendait comme modèle de prévention ce qui est éventuellement une aide à l'élucidation de l'affaire. Et l'exemple des attentats dans le métro, qui ont été vendus dans toute l'Europe comme un argument décisif en faveur de la généralisation de la surveillance à distance dans l'espace public, est l'exemple même de l'inefficacité préventive de cette surveillance à distance. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que la surveillance à distance est très efficace dans un local fermé. Ses prestations sont beaucoup moins assurées dans un milieu ouvert. La deuxième, c'est que l'efficacité de la surveillance à distance tient à son couplage avec une intervention immédiate. Mais qui peut intervenir dans l'espace public ? Eh bien, la police publique. Or, l'effort des polices publiques a toujours été d'essayer au maximum d'éviter d'être dérangé par des signalements venant de services de télévision, de surveillance à distance, parce qu'il faut bien dire que la plupart des alertes sont des fausses alertes. Et que donc ça coûte beaucoup de temps en personnel. Et ça irrite au dernier degré les services de police. Mais quand il n'y a pas une intervention systématique, l'effet d'intimidation de la surveillance à distance s'effondre vite, parce que les gens comprennent bien que vous pouvez bien être vu, mais il y a peu de chances qu'il se passe grand chose après. Et donc, l'effet du marché a été en fait très important pour le développement d'une conception de la prévention essentiellement situationnelle, mais l'efficacité de cette prévention situationnelle est très variable selon le lieu auquel elle s'applique. On arrive aussi assez facilement à développer des techniques de traçage. Par le jeu des cartes de crédit, des téléphones cellulaires et d'autres techniques de ce genre, on retrace assez facilement les déplacements d'un individu, à condition qu'il veuille bien utiliser ces différentes technologies. Mais encore une fois, l'efficacité éventuelle de tous ces systèmes profite à l'enquête, beaucoup plus que la prévention. C'est après tout, quand un crime a été commis, que pour retracer les auteurs, on peut essayer de savoir s'il y a eu des communications téléphoniques sur cellulaire ou des choses de ce genre-là. Leur effet préventif n'est pas assuré du tout en raison de la masse énorme d'informations et de l'impossibilité pratique de distinguer dans cette masse énorme d'informations celle qui sera utile. Alors le troisième point de cette deuxième partie, c'est la question de l'interrogation sur l'établissement d'un modèle européen. L'affaiblissement de la spécificité des deux modèles initiaux a-t-elle conduit à la création d'un modèle européen unifié ? Alors c'est un peu la conclusion à laquelle arrivaient les promoteurs des séminaires européens que j'avais fait réaliser dans le cadre de notre réseau scientifique européen auquel Guy Rocher faisait allusion à sa présentation, le GERN, sous la direction successivement d'Eberhecht et Zach et ensuite de Dupré et Eberhecht, et qui en 2002 avait conclu qu'on était désormais en présence d'un modèle raisonnablement unifié de politique de prévention et de sécurité dans l'Ouest européen, qui reposait sur trois traits: la primauté du local, les politiques publiques de prévention et de sécurité sont des politiques essentiellement locales, le partenariat, Donc la nécessité d'impliquer des acteurs appartenant à différents secteurs de la vie sociale, et enfin le recours systématique au diagnostic ou à l'évaluation. Mais avant d'accepter ce bilan, cette conclusion, je crois qu'il faut s'interroger un peu sur ces différents traits. D'abord, l'indéniable primauté du niveau local ne doit pas dissimuler l'importance du dialogue entre le niveau local et un centre. Mais là, des divergences importantes apparaissent entre les pays selon leur organisation, parce que dans certains cas, comme l'Angleterre et la France, la Belgique, les Pays-Bas, c'est l'État national qui est le pôle central. Dans d'autres cas, c'est un palier régional, comme en Allemagne, où les politiques de prévention et de sécurité sont de la compétence des Länder et pas du Bund, de telle sorte d'ailleurs qu'un débat national sur les questions de sécurité a très peu de chances de pouvoir durer longtemps, dans la mesure où le Bund n'a pas grande compétence en la matière, ou le cas aussi de l'Espagne ou de l'Italie, où les États centraux n'ont jamais développé de politique de prévention et de sécurité, qui ont été développées un peu au hasard sur une base volontaire, par certaines régions en Italie, c'est le cas de l'Émilie-Romagne, ou par certaines autonomies en Espagne, c'est principalement le cas de la généralité de Catalogne. Un autre élément qui introduit ou qui maintient des distinctions entre les pays, c'est la structure des appareils policiers. Selon que l'appareil policier est centralisé ou régional, alors il est régional en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, jusqu'à un certain point de plus en plus en Espagne, au moins dans certaines parties de l'Espagne, essentiellement en Catalogne et aux Pays-Bas, il est national en France et dans une large mesure en Italie. Le modèle belge est un peu complexe, avec un niveau régional et un niveau central immergé en principe dans la même organisation. Et tout ça a une influence assez importante sur la façon dont s'organise en fait cette primauté du local que l'on annonce partout comme étant une caractéristique désormais commune d'un modèle européen de politique de prévention et de sécurité. Alors, deuxième trait qui était annoncé, c'est le partenariat. Mais le partenariat peut prendre une coloration très différente selon qu'on met sous ce terme que tout le monde emploie simplement le souhait de faire collaborer différentes branches de l'État et différentes branches des gouvernements locaux, ou que l'on parle de la participation des habitants à leur propre sécurité, ce qui n'est pas du tout la même conception. De toute manière, il se pose toujours un problème de leadership, et notamment celui de la place respective des élus locaux et de la police. Enfin, si la référence au diagnostic préalable et à l'évaluation est générale, tout le problème est de savoir jusqu'à quel point le diagnostic est approfondi ou superficiel, et souvent il se borne à compiler des données administratives ou des impressions de professionnels, sans faire appel à des données d'enquête en population générale. Quant à l'évaluation, sa pratique est généralement très déficitaire. Tout le monde communie devant l'autel de l'évaluation, mais ce que l'on met sous ce terme est des sens essentiellement variables. Il est rare, pour parler en termes précis, que l'évaluation dépasse le niveau de l'audit, c'est-à-dire de la comparaison entre ce qu'on a mis au départ, les inputs, et ce qu'on a produit à l'arrivée, les outputs. Mais l'évaluation, ce n'est pas ça. L'évaluation, c'est la comparaison entre la mise de départ, les inputs, et les impacts sur la cible, les outcomes. Et c'est uniquement l'évaluation qui permet de tenir compte des effets latéraux ou contre-intuitifs. Et à ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de véritable évaluation, parce que aucun des acteurs ne tient à avoir son investissement soumis à une critique externe qu'il ne peut pas contrôler. Or, la culture d'évaluation s'est développée plus en Angleterre que dans les autres pays, un petit peu aux Pays-Bas, elle est complètement absente des politiques de prévention dans certains pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie ou l'Allemagne. Et en France, il y a le mot, mais il n'y a pas la pratique. Il n'y a pas non plus le savoir-faire, d'ailleurs. Donc vous voyez que ce qu'on dit sur ce niveau, sur cette intégration d'un modèle européen, demande quand même un certain nombre de bémols, et qu'il existe des particularités nationales qui sont souvent dues à l'organisation politique et administrative des différents pays et non pas à des choix spécifiques de programmes de prévention et de sécurité. Alors, pour conclure, je voudrais appeler votre attention sur deux grandes évolutions dont retrouve la trace peu ou prou dans la plupart des pays de l'Ouest européen. Le premier point, c'est que la montée en puissance d'une conception surtout situationnelle de la prévention, surtout défensive, a deux conséquences. La première, c'est que les politiques sociales, quand elles existent, ne parviennent ni à résorber les effets de la désaffiliation socio-économique de certaines fractions de la société, ni à réduire la crainte de précarisation qui en menace des fractions plus importantes encore. Quant aux dispositifs, deuxième conséquence, les dispositifs de prévention à proprement parler, se sont pour l'essentiel recroquevillés sur des postures défensives et la prévention proactive, celle qui est basée sur un accompagnement à la socialisation des jeunes en difficulté, a été plutôt laissée à l'abandon, ou en tout cas n'a pas été rénovée. Ça, c'est ma première conclusion. La deuxième, c'est qu'on observe une tendance assez générale des États nationaux à se replier sur une conception essentiellement répressive de la sécurité et à abandonner assez largement le reste, les politiques sociales et les programmes spécifiques de prévention, à l'initiative des autorités locales, si elles en ont envie. Et cette tendance a été très renforcée après 2001 par l'alarme au terrorisme et par l'équation implicite qu'on a faite sans le dire entre les zones à forte concentration d'immigrés et les poches de recrutement d'apprentis terroristes. Et cette évolution est probablement assez importante parce que l'exemple historique nous amène à conclure que les grandes alarmes à la sécurité, comme celles qu'avait connues l'Europe entre la crise économique des années 1880 et la Première Guerre mondiale, n'ont jamais été résorbées par l'emploi d'une seule gamme de moyens, mais au contraire par la mise en œuvre d'un policy mix qui arrive à mixer dans des proportions bien calculées prévention, répression et mesures de politique sociale. Et surtout qui arrive à éviter les contradictions entre ces différentes branches des politiques de sécurité. Et c'est probablement ce qui manque le plus actuellement dans la zone européenne. Nulle part, je pense, un gouvernement n'est arrivé à mettre au point une politique de prévention et de sécurité qui combine sans contradiction ces trois éléments. Le résultat, d'ailleurs, c'est que dans certains pays, les questions de sécurité sont devenues un enjeu politique sur lequel tous les hommes politiques rêvent de surfer, à l'exemple de ce qu'a fait l'actuel président de la République française lors des élections de 2002, où il avait toute chance d'être battu s'il n'avait pas su profiter habilement d'une alarme qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs à l'insécurité, un exploit que tous ses successeurs potentiels rêvent de recommencer. Et en même temps d'ailleurs, parce que c'est ambigu, tous les hommes politiques sont terrorisés d'être pris à l'idée d'être pris à contre-pied par une alarme importante à l'insécurité. Ce qui fait que cette matière est une matière où très souvent, le personnel politique est tétanisé en même temps que fasciné par les problèmes d'insécurité. Il l'est moins dans les pays à structure fédérale ou en voie de fédéralisation, ce qui est une évolution très répandue dans la zone européenne, parce que à ce moment-là, les problèmes de sécurité sont du niveau des gouvernements régionaux et non plus du gouvernement central, et à ce moment-là, il devient très difficile de faire des problèmes de sécurité un enjeu politique national. Voilà, merci beaucoup.
Nous devons vous poser quelques questions.
Et à votre disposition.
Je me demande, Philippe, vous poser une question. Est-ce que dans les gouvernements européens, ce que vous, cette histoire, cette évolution, est-ce qu'il y a une forte influence de la pensée de la police sur les hommes politiques, ou est-ce qu'il y a à l'intérieur des États, dans la fonction publique, des fonctionnaires plus particulièrement associés aux politiques de prévention de sécurité?
Alors,
en termes de personnel, de personnel qui travaille sur la question. Parce qu'on a toujours l'impression, quand on regarde de l'extérieur, que c'est la police qui a le mot principal, qui semble influencer les hommes politiques de gauche ou de droite. Mais c'est probablement une image fausse.
C'est probablement très différent selon les pays. En Angleterre égale, depuis le début, la police a été l'acteur essentiel et, comme je le disais, il a été très difficile de réintroduire les représentants des gouvernements locaux dans la conception et la gestion des politiques locales de prévention et de sécurité. Et traditionnellement, c'est la police qui pèse le plus lourd. Et d'autant plus que, au niveau du gouvernement central, ce domaine ressort du ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de tutelle des forces régionales de police, et celui qui a en main l'inspection royale de la police. En France, mais aussi en Belgique, en Italie, en Espagne, c'est plus compliqué, donc je le mets entre parenthèses. C'était pas du tout comme ça. Dans les années 80, au contraire, la police refusait ostensiblement de s'occuper de tout ce qui n'était pas de l'enquête criminelle ou le maintien de l'ordre. Tout ce qui était prévention était considéré comme du travail de bonne sœur ou d'assistante sociale, qui n'était pas digne d'un vrai homme comme un policier, et il ne voulait pas en entendre parler. Alors, toute la décennie 1990 a été un effort considérable de tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, pour essayer d'impliquer les organisations policières là-dedans. Et le résultat, un peu paradoxal, est que la police est devenue maintenant un acteur majeur et surtout un groupe de pression assez dominant. Surtout la hiérarchie policière, qui pèse de plus en plus lourd, mais avec cette réserve qu'une organisation centralisée comme l'est la police en France influence beaucoup le personnel politique, mais peut aussi être soumis à une tutelle rigide de ce personnel politique. Par exemple, actuellement, l'actuel ministre intérieur tient d'une main de fer son système policier. Mais en échange, le programme qu'il applique est celui du corps des commissaires de police, c'est-à-dire celui de la hiérarchie policière, sans le dire. Donc il y a une sorte de théorie des associés rivaux, pour parler comme parlait François Bourriqueau dans sa thèse, entre l'acteur politique et le personnel supérieur de la police. Or, dans d'autres pays, la situation est beaucoup plus incertaine. En Italie, par exemple, la seule région qui a développé une certaine cohérence de politique de prévention et de sécurité, qui est l'Émilie-Romagne, là, ce n'est pas du tout la police, parce que l'organe qui a pris l'initiative, c'est le gouvernement régional, il n'a pas de corps de police à sa disposition. La police est soit entre les mains de l'État, soit entre les mains des municipalités. Et donc, elle joue un rôle assez secondaire dans toute l'histoire. En Espagne, c'est plus compliqué, parce que le seul endroit où s'est développée une politique un peu cohérente de prévention de sécurité est la généralité de Catalogne. D'abord la mairie de Barcelone, puis ensuite la généralité de Catalogne. Et celle-ci dispose d'une force de police, qui était insignifiante au départ, mais qui est en train de devenir dominante dans la région catalane, de telle sorte qu'elle devient progressivement un acteur important. Et un groupe, et jusqu'à un certain point, un groupe de pression, mais moins qu'en France, parce qu'il s'agit d'une organisation administrative nouvelle, qui a donc des cadres peu stabilisés, peu de prestige social au cœur, et pas énormément de moyens d'influencer le personnel politique. En Allemagne, traditionnellement, la conception de ce point de vue-là était la même qu'en Angleterre. Tout ce qui est prévention et sécurité, ça relève pour l'essentiel de la police. C'est-à-dire de la police des Länder, puisque la police du Bund n'existe qu'au niveau d'une force supérieure police criminelle ou de douane. C'était vers leur police que les Länder se tournaient. Et c'est encore très largement vers la police, avec cette réserve qu'il y a eu une certaine montée en puissance des municipalités, du rôle des municipalités dans certains lenders. Mais avec ce décalage, parce que la municipalité se trouve en face d'une police qui ne relève pas d'elle, qui relève du gouvernement du Land. Voilà, donc c'est une situation aux Pays-Bas. Alors, aux Pays-Bas, c'était encore un peu compliqué, parce que la police jouait un rôle important, mais la prévention était du domaine du ministère de la Justice, principalement. C'est là qu'était la direction de la prévention, et finalement, on s'apercevait qu'au niveau régional, c'était une sorte de trio entre le chef de la police régionale, le bourgmestre de la ville la plus importante et le procureur de la reine. Voilà, donc finalement, je ne suis pas capable de faire une réponse très simple à votre question, ça dépend des différents pays. Ce n'est pas la même chose dans les uns et dans les autres.
Dans l'évolution de la conception de la sécurité, vous avez parlé rapidement de l'approche par le risque. Où est-ce que ça se situe au niveau de la mise en œuvre de la prévention? Je parle toujours de l'approche par le risque. Aujourd'hui, ou est-ce qu'on l'a abandonné à un moment donné?
Bon, l'approche par le risque, c'est surtout un raisonnement intellectuel, une façon d'aborder les choses. Est-ce que c'est un concept stratégique opératoire? Ça, c'est un peu plus discutable. Il y a un exemple négatif, un exemple positif. L'exemple négatif, c'est les programmes de surveillance du voisinage. Grosso modo, ils se sont implantés dans les endroits où il y avait assez peu de besoins de sécurité et où le risque était donc faible. Et là, c'est l'exemple négatif. L'exemple positif, c'est les programmes concernant le cambriolage à répétition, qui sont manifestement inspirés par la théorie du risque, et qui reposent sur l'idée que quand une habitation a été cambriolée, il y a beaucoup de risques statistiques qu'elle le soit à nouveau, et que donc il est rentable de mettre l'impact sur la prévention du cambriolage à répétition, en mettant l'accent sur les lieux qui ont déjà fait l'objet d'un cambriolage. C'est une application manifeste de la théorie du risque. Pour le reste, on peut dire d'une certaine façon que les politiques territoriales, telles qu'on les pratique en France ou en Belgique, les politiques de la ville, sont inspirées de la théorie du risque, dans la mesure où on cible des territoires qui présentent un cumul de problèmes. Mais on ne cible pas de population. C'est donc une conception un peu particulière, une application un peu particulière de la théorie du risque. D'autres questions? Oui?
Moi, j'aimerais vous poser une question pour savoir ce que vous venez d'exposer est extrêmement intéressant et éclairant. Parce que souvent, la tendance, notamment la suite des enquêtes qu'il y a eu en novembre 2005, on a essayé d'établir un amalgame entre l'immigration, et tout le reste. J'aimerais bien savoir dans quelle mesure les recherches sur l'école, les exposés que vous donnez, comme ceux que vous venez de faire, dans quelle mesure un langage public, je dirais de nos vies, du commun des mortels, pourrait être informé et éventuellement éviter de tomber dans le piège des politiques?
Actuellement, il y a, surtout depuis quelques années en France, un désintérêt très généralisé des responsables politiques et administratifs envers la production de savoir. Et ceci tient, je pense, essentiellement à deux raisons. La première, c'est que comme les problèmes de sécurité sont devenus un enjeu politique, mais aussi une menace pour les hommes politiques, toute production de savoir entre difficilement dans les schémas de la pensée politique. On n'arrive pas à le compacter d'une façon suffisante pour le faire entrer dans. Et ceci a fait qu'il s'est développé une sorte de corps intermédiaire de gens qui produisent une sorte de pseudo-savoir, d'experts auto-investis, dont l'exemple le plus typique est l'actuel président du pseudo-observatoire national de la délinquance qui est à la limite de l'aventurier et qui s'est auto-investi comme expert. Ces experts ont la caractéristique qu'ils sont surtout caractérisés par leur affinité politique plutôt que par leurs compétences scientifiques. Donc il y a une sorte de divorce très fort qui s'est créé entre la communauté scientifique et le monde politique, pris globalement d'ailleurs, quelle que soit sa coloration. Puis la deuxième raison, c'est que les politiques en la matière sont très instables. Elles changent tout le temps, au moins superficiellement, avec la concurrence politique, et donc elles sont très court-termistes, et elles sont de plus en plus incompatibles avec le temps de l'enquête scientifique. Actuellement, on peut dire que le divorce est à son maximum entre la communauté scientifique, toutes opinions confondues, et le personnel politique, toutes positions politiques confondues également. Alors, il est possible que l'influence soit plus forte dans la population en général ou dans certains secteurs associatifs. En échange, il est assez faible sur la presse nationale qui suit fidèlement le personnel politique. Ce qui fait que ceux d'entre nous qui sont le plus préoccupés par les entreprises de communication et de vulgarisation, ciblent plutôt maintenant des publics de population générale ou associatifs plutôt que des responsables politiques ou administratifs.
Moi, j'avais une question qui rejoint un peu celle de Sonia. Je ne sais pas de quel côté je me place. On va dire si c'est la citoyenne ou est-ce que c'est la scientifique, mais c'est des faits de simplification du débat, une recherche de simplification. Autrement dit, la difficulté qu'on a à gérer la
complexité peut-être.
La complexité de la société, la complexité des enjeux. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment l'affaire de tout le monde, autant des politiques, des médias, que de la population qui, dans le fond, bon, on a des problèmes, nous ce qu'on veut c'est des solutions simples. Donc je lisais, c'était dans l'Express cette semaine, où il y a ces fameux quartiers sécurisés en France qui développent de plus en plus, où une dame disait, ben, pendant les émeutes, nous bon, on était tranquille, même si on était dans la région parisienne, nous on a des caméras, on a nos grillages. Bon, donc les gens cherchent ça, et je trouve ça très préoccupant, parce que la vie n'est jamais aussi simple, l'avenir, je veux dire, la société est très complexe, il y a de multiples enjeux, et c'est une espèce de simplification de la sécurité, dans le fond, ça fait bien l'affaire de tout le monde, et on arrive avec des solutions simples, plutôt de cibler des populations, des problèmes sociaux, on va cibler des territoires. On voit ici, c'est exactement la même chose, il y a des quartiers qui sont chauds, donc la police, tous les acteurs deviennent, je dirais, on ne parle plus de différentes polices, mais on parle de la police, et dans ce cas-là, il faut des solutions simples à des problèmes qui, dans le fond, sont simples, parce que c'est les problèmes de valeur, c'est ce qu'on nous dit, c'est les problèmes de valeur, les problèmes dans la société.
On note une certaine tendance à une séparation accrue, une séparation spatiale des groupes sociaux. Je veux dire par là concrètement que pour des gens préoccupés par la sécurité, la meilleure façon de l'assurer, c'est de se servir du prix du foncier et d'aller habiter dans des zones qui sont tranquilles parce que le prix des maisons y est élevé. Et en même temps, ce sont des zones qui ont généralement un bon équipement scolaire, ce qui est aussi très, très recherché. Et donc, c'est un élément très, très important de séparation. La meilleure façon d'assurer sa tranquillité, c'est d'aller habiter dans une zone résidentielle tranquille. Et la meilleure façon qu'une zone résidentielle soit tranquille, c'est que le foncier y soit cher. Et d'ailleurs, l'argument le plus important, c'est pas la sécurité, c'est l'équipement scolaire. Parce que c'est devenu une obsession pour tout le monde. Dans les années 60 ou 70, à peu près tout le monde était persuadé dans les sociétés européennes que l'avenir de nos enfants serait meilleur que le nôtre en tout état de cause. Maintenant, personne n'est plus persuadé de l'automatisme de cette amélioration, et par voie de conséquence, la performance scolaire est devenue une obsession pour à peu près tout le monde. Donc c'est un argument très important pour choisir sa zone de résidence, mais en même temps c'est une façon d'assurer sa tranquillité et sa sécurité. Avec une certaine tendance à dire que pour le reste, pour les mauvais quartiers, ben, c'est une histoire de la police et qu'elle a qu'à se débrouiller à contenir les éléments de trouble dans une confrontation et un harcèlement permanent. Or, ceci étant, il ne faut pas généraliser trop rapidement, parce que, d'une part, la police est en effet l'action la plus visible, mais il n'y a pas quand même que ça. Il y a en même temps tous les dispositifs de politique de la ville qui, quoi qu'ambigu, existent quand même. Et puis, l'action de la police a des limites. Les troubles urbains de novembre 2005 sont la conséquence à peu près directe de 3 ans de police d'ordre et de harcèlement. Et tous les observateurs ont noté la liaison entre ce choix policier et le résultat que l'on a obtenu à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que la police seule réussisse de façon durable à endiguer les troubles. D'autant que ce qui atteint la sécurité des particuliers, c'est quoi ? C'est un risque très important de victimation d'appropriation, et dans certaines zones, un risque relativement important de petites violences à répétition. Or, ce contentieux-là, cette délinquance-là, les gros appareils policiers sont paradoxalement très mal placés pour les traiter. Premièrement, parce que chacun de ces incidents est en soi trop peu significatif souvent pour que la victime prenne la peine de le signaler à la police. Et deuxièmement, parce que généralement, si elle le signale, l'auteur reste anonyme et que la police est peu disposée à consentir les efforts, l'investissement assez coûteux qu'il faudrait faire pour élucider de telles affaires minimes. Et que ce qui fait leur caractère irritant pour ceux qui en sont victimes, c'est la répétition plutôt que la gravité. Et donc, paradoxalement, la solution qui a la préférence actuellement de beaucoup de gouvernements, la solution policière, est une solution à efficacité limitée. Ce qui fait que dans un premier temps, on répond assez bien à la demande de sécurité, mais que dans un deuxième temps, cette demande risque de devenir insatiable et les responsables politiques risquent de se trouver entraînés dans une course-poursuite où ils seront toujours dépassés par davantage de demandes. Ce qui risque de finir par les mettre dans une position difficilement tenable.
Merci beaucoup.